Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En 1988, vous vous souvenez bien de ce film qui a défrayé la chronique, La dernière tentation du Christ, de Scorsese, qui était aussi bien réalisé au plan matériel, au plan technique, que douteux quant au fond, quant au scénario. Et vous vous souvenez que de nombreux chrétiens, puisqu'il ne s'agissait pas seulement de catholiques, mais de protestants et d'orthodoxes également, se sont levés pour défendre l'honneur bafoué une nouvelle fois de leur Seigneur. Quels en étaient les motifs de ces manifestations contre le film de Scorsese ? Le blasphème, bien sûr, mais j'ai trouvé l'argument plus pertinent encore, parce qu'il s'agissait d'un argument naturel, celui-ci. Quant au blasphème, il faut encore avoir la foi. Mais il semble que ni Scorsese ni ses amis ne l'aient. Quant au motif que je vais vous exposer, il suffit d'avoir un peu de jugeote, de bon sens. Ce film mettait en scène Jésus-Christ, dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il s'agit d'un personnage historique. Mais lorsqu'on traite de l'histoire d'un personnage historique, encore faut-il se conformer tant soit peu aux témoignages qui ont été rendus de ce personnage historique. Or, il se trouve que le film de Scorsese est en porte-à-faux avec la totalité des témoignages rapportés quant à la vie du Seigneur. Au premier rang de ces témoignages, bien sûr, les évangiles, dont personne parmi les historiens, personne de sérieux, ne conteste la véracité historique. Quant au mode de vie de Jésus, je ne parle pas de sa divinité, qui encore une fois requiert pour qu'on y adhère la foi. Je parle pour quelqu'un de bon sens, avec les yeux de la nature. Si vraiment Scorsese entendait faire un film qui mettait en scène un personnage historique, il eût fallu, pour que l'on reconnût ce film à sa juste valeur, qu'il se plia à un certain nombre de paramètres, et notamment le fait que le Seigneur Jésus s'est reconnu universellement par les gens sérieux, n'a jamais été marié avec Marie-Madeleine. Voilà pour le film de Scorsese, donc. Contrairement à ce que les détracteurs de l'Église à l'époque, et contrairement à ce que les défenseurs de Scorsese ont prétendu, ce qui avait provoqué la levée de boucliers des catholiques et des chrétiens en général, ce n'était donc pas le fait que Scorsese ait parlé de tentation du Christ. Parce qu'enfin, quiconque a ouvert la Bible parmi les chrétiens sait pertinemment que le Seigneur a été soumis à la tentation. Il n'y a là aucun blasphème, il n'y a là aucun... Les catholiques sont tout à fait d'accord pour reconnaître cela, plus que cela encore. Ils sont fiers que leur Seigneur ait éprouvé la tentation. Vous voyez, c'est assez remarquable, du reste, notez-le au passage, que le Nouveau Testament ne cherche pas à dissimuler les tentations que le Seigneur Jésus a pu rencontrer dans sa vie. Pas plus qu'il ne cherche à dissimuler les faiblesses des apôtres, par exemple. Vous voyez, ça c'est un peu d'apologétique, ne fait jamais de mal. Voilà un argument qui, je trouve, est tout à fait pertinent. Habituellement, on a tout intérêt à cacher les faiblesses du fondateur d'une religion. Dans la nôtre, on ne cherche dans l'Évangile à masquer quoi que ce soit des faiblesses du Christ. Il a ressenti la soif, il a ressenti la faim, il a eu de sainte colère, il a été tenté, bien sûr, et l'Église met là tout son honneur à révéler cela. Pourquoi met-elle tout son honneur à cela ? Mais parce que cela, ces faiblesses du Seigneur, ou c'est le fait qu'il ait pu éprouver la tentation, attestent de la réalité, du réalisme de son incarnation. Il était vraiment homme, il n'a pas fait semblant de subir la passion, il n'a pas fait semblant d'être tenté, il n'a pas fait semblant de mourir. Tout cela, il l'a vécu pleinement, parce qu'il était pleinement homme. Et certaines versions un peu châtrées parmi les premiers chrétiens, parmi les gnostiques notamment, ont essayé d'éliminer de l'Évangile tous les passages qui, justement, relataient les faiblesses du Seigneur Jésus. D'autres se sont appuyés sur ces passages, comme l'arianisme, pour nier la divinité du Christ. Alors là, on reconnaissait pleinement les faiblesses du Christ, mais on en niait, du coup, la possibilité qu'il soit Dieu, puisque Dieu ne saurait souffrir, ne saurait éprouver la tentation. Voilà que l'Église la traite dans sa tradition, entre ces deux excès, tenant que Jésus est pleinement Dieu, mais pleinement homme, mais encore une fois, toute sa fierté à reconnaître que le Seigneur a connu la tentation. Ces tentations témoignent non seulement du réalisme de l'incarnation, mais de l'amour fou de Dieu pour l'humanité. Lui qui est le Fils de Dieu, l'immuable, l'impassible, celui à qui rien ne manque et que rien ne saurait atteindre, voilà qu'il se fait le tout petit. Et voilà qu'il accepte d'entrer dans le bouillonnement de notre nature et dans les moindres faiblesses de cette nature. Sans avoir rien connu du péché, il en a néanmoins connu les conséquences, c'est-à-dire la passibilité, le fait de pouvoir souffrir, c'est-à-dire la mortalité. Voyez donc que les chrétiens n'ont aucun intérêt à cacher les faiblesses du Seigneur, puisque ces faiblesses attestent qu'il est bien Dieu, et qu'il est bien pleinement homme, pardon, et qu'il a aimé l'humanité jusque dans ses moindres replis. Voyez. Le Nouveau Testament relate en fait deux grandes tentations du Seigneur, deux grands moments de tentation. Au début de la vie publique du Christ, notez qu'on ne parle pas de tentation dans les 30 premières années du Christ, c'est assez étonnant. Mais à ses 30 ans, le Seigneur Jésus, après son baptême, est conduit au désert et il est tenté. C'est le texte d'aujourd'hui. 3 ans plus tard, à la fin de sa vie publique, le Seigneur est à nouveau tenté, ou du moins le Nouveau Testament nous relate ce deuxième lieu de tentation. Il s'agit bien entendu de Gethsémani. Et il s'agit à Gethsémani, pour le Seigneur en agonie, de connaître cet écartèlement entre la mission pour laquelle il est venu s'incarner et sa faiblesse humaine qui réclame la vie, qui aspire quoi qu'il en coûte à la vie. Seigneur mon Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Et puis le Seigneur se reprend, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais cette tentation est récurrente, puisque cette phrase sort plusieurs fois de la bouche du Seigneur. Et puis quelques heures plus tard, lorsqu'il est sur la croix, encore une tentation, et laquelle ? Mon Dieu, non plus seulement mon Père, mais mon Dieu, voilà qu'il est encore plus éloigné de son Père, au moins au plan sensible. Son humanité ne sent plus rien. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et quelques instants plus tard, non, encore une fois, le Seigneur qui acquiesce, tout est accompli, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez donc, au début et à la fin de la vie publique du Christ, le Nouveau Testament explicitement relate les tentations du Christ. Comme pour nous dire, voilà, regarde, toute la vie publique de ton Seigneur est traversée par la tentation. Dans l'Évangile, tout n'est pas relaté dans les moindres détails de la vie du Seigneur. On a un récit typique, typologique. S'il y a une tentation au début, une tentation à la fin, ça veut dire qu'en fait, il y a eu une tentation tout au long de la vie publique du Seigneur Jésus. Voyez ? Et nous avons encore, c'est vrai, d'autres petites tentations de ci, de là. Après, le discours du pain de vie, la multiplication des pains, voilà que la foule veut faire de Jésus son roi. Et Jésus, nous dit l'Écriture, s'enfuit dans la montagne sachant qu'il voulait le faire roi. Mais ça a dû travailler. Le Seigneur savait qu'il n'était pas venu pour cela, mais une foule de 2000 personnes, selon certains récits, 3000 selon d'autres, qui vient l'acclamer comme roi, alors qu'il est rejeté par d'autres, par l'élite de son peuple, d'autres seraient tentés à moins de personnes. Et une nouvelle fois, lorsqu'il entre le jour des rameaux, lorsqu'il est acclamé par la foule, avec tous les titres davidiques, avec tous les titres messianiques, cette foule qui le suit depuis plusieurs années, cette foule qui devait être nombreuse au point que les élites décident de mettre à mort le Christ, c'est bien qu'il représentait un véritable obstacle. S'il avait été le chef d'une poignée de disciples et un homme tout à fait anecdotique, on n'aurait pas pris tant de risques. Voyez, on n'aurait pas fait appel au bras séculier romain. Le Sanhédrin ne se serait pas abaissé devant celui qu'il est par-dessus tout, c'est-à-dire l'occupant romain. Si on s'en prend à Jésus, c'est qu'il représente un véritable danger. C'est donc que les foules le suivent depuis quelques années. Et lorsqu'il entre à Jérusalem, nous ne nous réduisons pas trop la portée de cet événement. C'est un événement capital qui a dû défrayer la chronique à l'époque. Voyez, le Seigneur Jésus monte sur un ânon. On met des manteaux sur sa route, on prend des palmes, tous signes qui sont dans la tête d'un juif tout à fait symboliques, qui ne sont absolument pas anodins. Il s'agit là de signes réservés au Messie et de signes réservés au fils de David, ce vers quoi tend tout le peuple élu depuis des siècles. Voyez donc que le Seigneur à ce moment-là a dû connaître, c'est vrai, quelque chose d'une tentation de puissance. Si donc l'Évangile affirme que pendant toute la vie publique du Seigneur, il a dû rencontrer des tentations, c'est du moins comme ça que la théologie l'interprète, c'est pour nous montrer qu'il y a un lien entre ce que réalise le Seigneur Jésus pendant cette vie publique, la rédemption, et les tentations. C'est qu'il y a un lien indissociable entre les deux, que pour que notre rédemption puisse s'accomplir, Il a fallu que le Seigneur soit éprouvé, connaisse la tentation. Pourquoi ? Parce qu'ainsi, il méritait. Voilà la clé. Pour nous sauver, il a fallu que le Seigneur mérite, dans son humanité, dans sa divinité, bien sûr, tout était acquis, mais dans son humanité, il a fallu qu'il mérite. Comment ? En rencontrant, en se confrontant et en étant victorieux, de la tentation. Vous voyez que c'est très instructif pour nous. Nous n'avons pas, mes frères, à redouter la tentation. Cette traduction fautive du pater que vous connaissez tous ne nous soumet pas à la tentation. Elle est fautive d'abord parce qu'elle nous fait croire que Dieu positivement nous tente, que Dieu en gros est comme Lucifer si l'on veut, mais je crois qu'elle est fautive pour un motif encore plus profond. On y voit là le refus de la part de l'âme chrétienne de rencontrer la tentation. Ne nous soumet pas à la tentation. Que jamais la tentation ne soit sur ma route, autrement dit. Mais je préfère évidemment, comme vous, je pense, l'autre traduction plus fidèle au texte originel qui nous dit « Ne nous laissez pas succomber à la tentation ». Ne nous laissez pas succomber, ça veut dire « Seigneur, je ne renâcle pas à la tentation. Je sais que, comme pour votre fils, elle est indispensable à la réalisation du salut. Donc j'accepte ces tentations, Seigneur. » Comme ailleurs, dans d'autres prières, nous disons « J'accepte toutes les épreuves qu'il vous plaira de m'envoyer. » Donc, j'accepte, Seigneur, les tentations, vous les permettez, non pas que vous soyez là à me tenter vous-même, vous permettez la tentation, comme dans le livre de Job, Dieu ne tente pas Job, Dieu ne vient pas frapper Job, mais laisse à Satan le soin de le faire, il permet à Lucifer le soin de le faire. Pourquoi ? Pour que Job grandisse dans son abandon à Dieu, pour que Job grandisse dans cette confiance en Dieu. Vous voyez, c'est exactement la même chose qui s'opère pour nous. Nous n'avons pas à dire à Dieu, ne nous soumettez pas à la tentation. Seigneur, les tentations que vous permettrez sur ma route, j'accepte de les affronter, mais ne me laissez pas succomber, c'est-à-dire donnez-moi votre grâce. Parce que je sais que seul, je suis incapable de faire face à ces tentations. Vous voyez, c'est ce que l'Église nous propose, d'entrer dans le carême avec le Seigneur Jésus, de descendre dans l'arène. Et oui, nous allons descendre dans l'arène. Comment ? Il faut y descendre pleinement, mes frères. Pas seulement en lisant par-ci par-là quelques conseils de carême pour les cancres et autres bouquins très intéressants, mais qui ne suffisent pas au carême. Le carême, mes frères, il faut le vivre, vous le savez, selon les trois lignes qu'a déterminées l'Église, qui ne font que reprendre l'évangile de saint Matthieu. Le jeûne, la prière et l'aumône. Ça n'est pas un pape qui, du haut de sa chair ou du haut de la sedia, un beau jour a décidé que les chrétiens devraient sacrifier à ces trois efforts. C'est le Seigneur Jésus qui, dans l'évangile selon saint Matthieu, nous donne ces trois lignes opératoires pour nous sanctifier. Parmi ces trois-là, je n'en relève qu'un, puisque c'est ce qui concerne l'évangile d'aujourd'hui. Rassurez-vous, je terminerai par là. Il s'agit du jeûne. Est-ce que nous prenons au sérieux le jeûne ? Le Seigneur Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il ne s'agit pas d'un ramadan, vous voyez. Il s'agit vraiment d'un jeûne plénier. C'est vrai que peu de personnes peuvent se permettre, à part Marthe Robin, je ne vois pas très bien qui a pu jeûner de cette manière. 40 jours, évidemment, c'est excessif. Encore que beaucoup d'orientaux nous racontent que les pères du désert ont, avec l'emphase orientale qu'on sait. Le Seigneur Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Nous sommes là à la fin du mercredi des cendres ou à la fin du vendredi saint, après quand même avoir pris soin de prendre un repas, parce que l'Église nous y autorise, bien sûr, nous sommes très fils de l'Église ce jour-là. Eh bien, nous sommes là en train de nous tortiller sur notre lit et de nous coucher à 9h du soir parce que rien ne va plus dans notre organisme, nous bouleversons tout, mais Seigneur, c'est pour vous, j'offre, et voilà. Et nous avons des têtes de crucifiés, mais voilà. Le jeûne, que connaissons-nous par rapport au jeûne du Seigneur Jésus ? On va mettre un peu sérieux. Vous voyez ? Ce jeûne-là nous met dans un état de faiblesse. Il faut accepter, parce que c'est le but du jeûne, pas seulement de se priver de quelques plaisirs, mais vraiment de nous mettre dans une situation de faiblesse. De sorte qu'effectivement, les tentations soient ressenties de manière plus vive. C'est exactement ce que fait Jésus. Jésus descend au désert et face à face avec Satan, que fait-il en fait ? Il, si vous voulez, il se met dans la position d'un tout à fait étrange, tout à fait paradoxal aux yeux du monde, aux yeux de la sagesse humaine. Il est le gladiateur qui descend dans l'arène après s'être dépourvu de ses protections et après avoir abandonné ses armes. Il est seul à seul face au tentateur pour lui montrer qu'il aura raison de lui, sans aucune arme artificielle. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous jeûnons. Nous n'avons pas de fuite, nous n'avons pas de possibilité de... Nous acceptons la confrontation avec le tentateur dans un état de faiblesse. Pas seulement parce que nous comptons évidemment sur nos forces, il ne s'agit pas de ça. Le Seigneur Jésus lui-même, dans son humanité, ne s'est pas contenté de ses petites forces humaines. Il se savait faible dans son humanité. Alors qu'a-t-il fait? Et c'est là qu'il faut suivre son exemple. Il s'est retranché derrière la parole de Dieu. À chaque fois que le tentateur lui a parlé, Jésus n'a pas répondu de sa propre humanité, de sa propre autorité, il a répondu avec l'autorité même de Dieu. C'est-à-dire en réalité pour nous qu'il faut nous pétrir de la parole de Dieu, qu'il faut prier pendant cette... Vous voyez, le deuxième point, après le jeûne, la prière, il faut nous pétrir de cette prière et demander à Dieu les grâces nécessaires pour, une fois le tentateur bien présent devant nous, une fois la tentation comme exaspérée par le fait que nous sommes affaiblis par le jeûne, eh bien que nous puissions combattre pied à pied avec Satan, non pas en vertu de nos propres forces, mais en vertu du Christ qui vit en nous, qui est la parole même de Dieu. Vous voyez ? Quant à l'aumône, troisième point de ce carême, l'aumône est là comme pour attester que nous avons correctement vécu les deux autres points. Du jeûne, qui ne vise qu'à une chose, nous disposer à faire appel à Dieu pour lutter face à Satan, et l'aumône est là comme une sorte de surcroît, de débordement à l'extérieur, qui montre que vraiment nous vivons de la charité. Si pendant notre carême nous prétendons avoir vécu vraiment un jeûne très austère, si nous prétendons avoir prié comme rarement homme a prié ou femme a prié dans sa vie, si nous ne sommes pas capables de regarder le mendiant qui nous demande un petit morceau de pain ou une pièce, si nous n'ouvrons pas la porte à quiconque a besoin de réconfort, hein, nos proches, que sais-je, quelqu'un que nous n'avons pas vu depuis longtemps, quelqu'un avec lequel nous avons du mal, mais... Ce sera là la preuve que nous n'avons pas vécu en fait correctement ni du jeûne ni de la prière. Vous voyez que tout se tient et que l'exemple vraiment est donné par le Seigneur Jésus au moment de ses tentations dans le désert. Je vous invite vraiment à méditer sur la façon dont le Seigneur Jésus lutte dans le désert. Contemplez-le et voyez-le homme, simplement homme, qui fait appel à, qui a comme mise entre parenthèses sa divinité et qui fait appel à la divinité comme si elle ne lui était pas propre, pour nous montrer l'exemple de ce que nous devons vivre pendant le carême. Et alors nous connaîtrons la tristesse, la joie, la douloureuse joie, comme nos frères d'Orient l'appellent, la douloureuse joie. C'est-à-dire que, fort de ce combat singulier avec Satan et le Christ vivant en nous, nous serons enfin dans une joie qui n'a rien à voir avec les joies artificielles dont nous vivons pendant tout le reste de l'année. Voilà, je demande à Notre-Dame de joie, Notre-Dame de Liesse, le soin de demander à son Fils de nous donner cette grâce du vrai combat. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.